Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec ce sixième épisode du livre Un petit bout de femme, écrit en anglais par Phyllis Thompson et traduit par Evelyn Clark, nous sommes dans les dernières années en Chine de Gladys Allward. Nous rencontrons d'abord Christian Chang, amateur de bière et de liqueurs fortes dans sa jeunesse, mais qui découvre un jour la foi et devint un pasteur fort apprécié dans l'église méthodiste. Et Gladys et lui firent une équipe fort appréciée dans une léproserie de la mission. Je reprendrai ma lecture. Les dernières années en Chine. Christian Chang avait bu tant de bière et de liqueurs pendant sa jeunesse qu'il mourut de cirrhose du foie sans atteindre la vieillesse. Il avait semé dès son jeune âge les mauvaises graines qu'il récoltait maintenant dans son corps. Mais quelques années avant sa mort, il expérimenta une transformation qui bouleversa le restant de sa vie. Il racheta ses fautes en accomplissant pour Jésus-Christ, en quelques années, plus que bien des chrétiens pendant toute une vie. Il alla au séminaire théologique de Nankin, puis à Chengdu, où il fut consacré pasteur de la grande église méthodiste. C'est là qu'il rencontra Ewete, qui était membre de la congrégation. Dans sa longue robe chinoise bleue et ses souliers faits main, ses cheveux soigneusement tirés, assise parmi les femmes d'un côté de l'église, Gladys aurait été comme l'une d'elles si son nez ne l'avait trahie. De toute manière, elle n'était pas un membre ordinaire, allant au service du dimanche pour disparaître le restant de la semaine. Elle avait une manière de voir ce qu'il fallait faire, et elle le faisait. Elle parlait de Dieu à tout le monde, et il était clair qu'elle connaissait aussi bien la vie de son pays d'adoption. Elle était parmi les Chinois comme une vraie Chinoise. Gladys était très différente des autres missionnaires, toujours ou très polie, ou très enjouée, ou très timide, et presque toujours souriant comme des gens pas très sûrs d'être reçus et qui voulaient se faire aimer. Et Ewete n'était pas ainsi. Elle ne souriait que lorsqu'il y avait une raison de sourire, fronçait les sourcils quand elle était indignée, quand elle avait un problème d'arithmétique, par exemple. Et elle riait comme une enfant quand elle était heureuse. D'ailleurs, elle était aussi transparente que l'eau pure et sa théologie était de même claire et simple. Il y avait un Dieu vivant et elle était sa servante. Il y avait une horrible créature appelée Satan et elle était son ennemi. Chaque être humain avait une âme immortelle qui entrerait dans l'éternité pour vivre au ciel ou en enfer. Son œuvre dans la vie était de convaincre les gens de placer leur confiance en Jésus-Christ notre Seigneur, mort sur la croix pour eux. Et comme Jésus-Christ était ressuscité et avait promis d'être avec ceux qui se confiaient en lui et lui obéissaient, malgré épreuves et tentations, ils ne devaient avoir aucune crainte. Dieu ne les abandonnerait jamais. Les séminaires théologiques ont une façon de compliquer ce qui est simple. La théologie de Christian Chang était au fond la même que celle de Gladys et il était très content de l'avoir comme assistante, par exemple dans ses visites à la prison. Le gouvernement chinois, le Kuomintang, avait donné l'autorisation de propager la religion dans les prisons. Et Gladys l'avait obtenu à Chengdu sans difficulté. En sortant, elle était parfois très en colère. Et Ouété avait le cœur tendre et tout le monde le savait. Oh, ce pauvre garçon dans les chaînes, Seigneur, qu'on les lui enlève. Délivre-le, quoi qu'il ait fait. Quand elle y retourna et constata qu'effectivement, on avait enlevé les chaînes au jeune homme, elle en fut enthousiasmée. Vous voyez bien, il y a un Dieu vivant et il répond à la prière. Et c'est ainsi qu'elle continuait à prier et à prêcher, comme à Yangchen. À Tiangtu aussi, de nombreux criminels furent convaincus d'accepter Christ comme étant la vérité. Quand le pasteur Chang en vit la nécessité, il décida que Weite était bien la monitrice d'enseignement biblique qu'il lui fallait à l'Église. Nombre de diplômés chinois de collèges bibliques auraient été heureux de prendre sa place, mais il préféra Gladys et elle accepta. On lui donna une petite chambre derrière l'Église. Et elle reçut le salaire normal pour cette fonction. Elle était la servante de l'Église. Une de ses occupations fut de nettoyer la salle. Rien que de la regarder l'a mis en boule. Mais quel désordre! De la poussière, des détritus! Elle sentit en elle un esprit de croisade. C'était sa maison dans un tel état de décrépitude? Comme son héros biblique favori, Néhémie, en arrivant à Jérusalem, elle décida de remettre tout en ordre. Elle noua un torchon autour de sa tête, attrapa une brosse et se mit à balayer et à ranger. Tout en travaillant, elle priait son Dieu et défiait le diable, tout à la fois. Pour Gladys, quand il y avait une bataille à livrer, on ne restait pas tranquillement assis, la Bible sous le bras. « Oh Dieu, remplis ce banc dimanche, amène les gens pour entendre ta parole. Bats l'ennemi, Seigneur, fais tomber ses griffes du dos des gens. Satan, je te défie, au nom du Seigneur, sors et reste dehors. » Elle s'asseyait sur un banc et priait, et défiait, puis elle passait au banc suivant et en enlevant la poussière, s'asseyait de nouveau et priait et défiait le diable. Elle fit ainsi tout le tour de la salle. « Oh Dieu, amène du monde, remplis ce banc dimanche !» Probablement, le début de la réponse à cette prière vint quand elle rencontra le jeune lépreux Su. Su avait été employé de banque dans le nord-ouest de la Chine. Quand il découvrit qu'il avait la lèpre, il fut désespéré, au point de chercher à se suicider. Sans succès pourtant. Comme le pasteur Chang, il fit une expérience qui apporta un sens à sa vie, jusqu'alors triste et misérable. Il arriva à Chengdu, dans la léproserie de la West China Union University, une maison tout à fait sinistre. L'immeuble et les conditions de séjour ne présentaient pas spécialement de problème, mais c'était les malades qui en avaient beaucoup. Ils se querellaient sans cesse et refusaient d'obéir au règlement de la maison. Su n'aimait pas du tout cette atmosphère. « C'est horrible, dit-il à Gladys. Ils suivent tous le diable. Dieu peut tout changer, répondit-elle. Dieu peut convaincre le diable. Elle serra ses lèvres et regarda Su, qui la regarda en retour. Ils étaient bien d'accord. Dieu pouvait le faire. À eux d'entrer dans le conflit de son côté, ce qu'ils firent sans tarder. Gladys l'accompagna plusieurs fois à la léproserie. Elle parlait aux hommes, prêchant l'Évangile et leur racontant comment le Dieu vivant lui avait dit de partir en Chine. Elle était maintenant au service de Dieu et des Chinois. Pour elle, la foi et les bonnes œuvres marchaient ensemble. Il en résulta que plusieurs malades commencèrent à fréquenter l'église le dimanche. Ils ne pouvaient s'asseoir avec les autres membres, car la crainte de la lèpre était encore grande. Mais il y avait une salle propre et garnie de bancs. Gladys y conduisait les malades pendant le chant du premier cantique. Leurs membres et leurs visages rongés par la terrible maladie, loin des regards, la tête courbée, ils suivaient tranquillement le service jusqu'au dernier cantique, au cours duquel ils repartaient. Le vendredi saint approchait et Gladys demanda avec instance qu'il y ait un service spécial de Sainte-Cène à la léproserie. Christian Chang hésitait un peu, mais le missionnaire responsable, le docteur Olen Stockwell, juste de retour des USA, s'appliqua à le convaincre. Il n'y avait aucun risque de contagion. « Vous présiderez le service et je vous aiderai, » dit-il. Ce fut là un service inoubliable. Les lépreux s'avançaient lentement, certains boitaient, d'autres étaient incapables de s'agenouiller, étendaient les moignons à la place des mains pour recevoir le pain et le vin. L'atmosphère de la salle s'était changée, comme l'observa le docteur Stockwell. Cette expérience amena une ambiance nouvelle dans toute la léproserie.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
C'est quand elle habitait cette chambre derrière l'église que Gladys devint la mère d'un jeune garçon nommé Gordon. Elle était très populaire parmi les étudiants, car elle était toujours prête à leur enseigner l'anglais. Il passait un moment bruyant et joyeux. « Dites-le en musique !» était une de ses méthodes. « Tchengtu brillera ce soir, Tchengtu brillera ce soir. Quand la lune se lèvera et quand le soleil se couchera, Tchengtu brillera ce soir. » Elle composa une mélodie et les fit chanter tous ensemble. Ils lui demandèrent un jour de leur donner des noms anglais, ce qu'elle fit très volontiers. Et ils en furent ravis. À sa grande satisfaction, elle avait toujours quelques groupes autour d'elle. Un soir d'hiver, la salle était prête pour une réunion quand, tout à coup, la lampe à pression que Gordon pompait explosa. Il y eut un éclair, un cri déchirant, puis des gémissements et des pleurs. Il était évident que son visage et ses mains avaient été sérieusement brûlés. Il fallut le transporter à l'hôpital. Une fois en convalescence, comme il ne pouvait encore se servir de ses mains, Gladys décida de prendre soin de lui. Il avait vécu jusqu'alors avec un oncle très méchant. Il était maintenant avec Gladys dans la propriété de l'église. Elle était sa mère. Petit à petit, il recouvra la santé. Ses mains guérirent et Gordon, un aimable adolescent, devint un chrétien sincère. Il accompagnait Gladys quand elle allait prêcher dans une cour ou un village voisin. Elle écrivit à Jarvis aux USA au sujet de son plus jeune fils Gordon et lui parla de son zèle et de son dévouement au Seigneur. C'est Gordon qui prit soin d'elle quand elle retomba gravement malade. « Il était le seul à me faire du bien », raconta-t-elle plus tard à une amie. « J'insistais pour me lever, mais il me disait toujours « Reste couché !» Il s'asseyait près de moi jusqu'à ce que je m'endorme. Quand les Stockwell apprirent que Gladys était malade, ils vinrent la chercher et l'emmenèrent chez eux jusqu'à sa guérison. De temps en temps, Gordon venait timidement la voir. Quand il repartait, Gladys l'accompagnait un bout de chemin. Ils priaient ensemble dans le silence de la nuit. Ils avaient, l'un pour l'autre, une réelle affection. Cette femme de plus de 40 ans et ce jeune garçon qui n'en avait pas encore 20. Gladys eut plusieurs fils adoptifs, mais elle n'en aima aucun comme Gordon. La courte période de paix dont la Chine jouit à la fin de la guerre fut bouleversée par de mauvaises nouvelles au nord du pays. Les communistes sortaient de leurs repères avec une discipline de fer et une consécration devant laquelle rien ne semblait résister. « Ils finiront par prendre tout le pays !» disaient les Occidentaux qui vivaient en Chine. « Naturellement, cela leur prendra plusieurs années, au moins 10 ans !» Mais les nouvelles du Nord ébranlèrent leur optimisme et une rumeur circula disant que plusieurs familles chinoises appartenant à la bourgeoisie partaient pendant qu'il était encore temps. Les missionnaires de Chengdu se retrouvaient souvent pour parler de cela. « Bien sûr, nous resterons, disaient-ils, mais ce sera difficile. Si nos consulats nous recommandaient de partir, nous les ignorerons. Nous devons rester. Les chrétiens vont souffrir. » Et en parlant, ils pensèrent à Gladys Aylward. « Il faudrait la faire sortir d'ici, dirent-ils. Pour nous, rester n'est pas encore un problème. Après tout, nos gouvernements poseront des questions embarrassantes si quelque chose nous arrive. Elle est naturalisée chinoise. Si les communistes prennent le pays et l'arrêtent, nous ne pourrons rien faire, rien, si seulement nous arriverions à la faire partir. » Le docteur Stockwell aborda le sujet avec Gladys. Son travail à l'église avait changé. Elle visitait maintenant les petites communautés qui s'étendaient entre Chengdu et Chongqing. Elle était en voyage pendant plusieurs semaines à la fois. En revenant, elle allait chez les Stockwell, où elle était toujours bien reçue. C'était toujours un plaisir de la revoir, disait-il. Sa joie débordante et sa vie spirituelle, sa capacité d'adaptation à toutes les situations faisaient qu'elle était toujours la bienvenue. Mais elle n'était pas sous leur responsabilité. Ils savaient que la simple suggestion de quitter la Chine pour sauver sa peau aurait le résultat contraire à celui escompté. Aussi, le docteur Stockwell lui demanda simplement depuis combien de temps elle était en Chine. N'était-il pas temps d'aller voir ses parents? Elle acquiesça. Il y avait 17 ans qu'elle avait quitté l'Angleterre. Ses parents étaient âgés. Elle aurait bien du plaisir à les revoir, mais elle n'avait pas d'argent. Toutefois, elle prierait, et si c'était la volonté de Dieu, elle irait. Pendant ce temps, le docteur Stockwell eut une idée. Il écrivait au comité des Orphaned Missions, les missions orphelines, une organisation fondée par les principales sociétés missionnaires de Chine pendant la guerre, en vue d'obtenir des fonds de soutien pour les missionnaires coupés de leur pays. Il leur raconta qu'il avait chez lui une missionnaire orpheline qui devait retourner en Angleterre. Quand il expliqua qui elle était, le comité accepta de payer son voyage depuis Shanghai. Puis, il demanda à la mission à l'intérieur de la Chine de fournir à Gladys le logement et la nourriture pendant son séjour à Shanghai, ce qui ne présenta aucune difficulté. Enfin, il trouva l'argent pour le billet d'avion Chengdu-Shanghai. Il avait un fonds destiné au travail d'évangélisation. Et si Gladys Aylward n'avait pas fait sa part, mais qui l'avait donc fait? Il paya le billet avec une conscience tranquille qu'il conserva même quand les communistes le forcèrent pendant 9 mois à confesser ses péchés. Il s'avéra qu'il était plus difficile pour Gladys de sortir de Chine que d'y rentrer. Elle dut se procurer un passeport chinois et pour cela se rendit à Nankin avant de partir pour Shanghai. En y arrivant, de nouvelles formalités l'attendaient, car un étranger ne peut entrer en Grande-Bretagne comme un citoyen du pays. Le directeur de la mission dut faire de nombreuses démarches auprès de plusieurs bureaux officiels. Gladys s'en rendait à peine compte. Elle allait voir des jeunes qu'elle avait connus précédemment. De même qu'auparavant, des foules de réfugiés, des groupes d'écoliers et des étudiants universitaires étaient partis à l'ouest pour fuir les Japonais. De même, maintenant, ils s'installaient sur la côte est pour fuir les communistes. La petite île de Taïwan ayant été rendue à la Chine après la guerre, beaucoup de réfugiés cherchaient à s'y rendre. L'exode avait commencé. Mukden était déjà tombé aux mains des communistes, et bien que le général Mao Tse-tung n'ait proclamé officiellement la République du peuple chinois que le 1er octobre 1949, la situation ne laissait plus de doute au gouvernement nationaliste. Le grand port de Shanghai voyait davantage de gens partir qu'arriver. Les navires embarquaient des Chinois qui quittaient à jamais le pays de leurs ancêtres. Parmi eux se trouvaient quelques étudiants que Gladys avait connus dans les provinces de l'Ouest et avec qui elle avait essayé de maintenir un contact par correspondance. Un de ces jeunes gens fut stupéfait un jour de lire sur le panneau d'affichage de son immeuble une lettre de Ewete qui lui demandait de venir la voir à une certaine adresse. Que faisait Gladys à Shanghai? Il se rendit donc à Xinza Road, un grand immeuble de 4 étages, centre de la mission à l'intérieur de la Chine, où séjournait Gladys. Elle le reçut avec joie. Il allait partir pour Formose, elle pour l'Angleterre. Dieu lui avait envoyé un billet. Il prenait vraiment soin d'elle, comme il l'avait d'ailleurs toujours fait. Ce jour-là, alors qu'elle s'arrêtait à la réception, on lui avait remis un don anonyme de 10 dollars. Quand son jeune visiteur fut prêt à partir, elle lui donna une lampe électrique et une pièce d'un dollar. Ce n'est pas seulement à lui qu'elle fit des cadeaux. Ses enfants, elle ne les reverrait peut-être jamais. Elle devait faire tout ce qu'elle pouvait pour eux. Rien d'étonnant qu'elle se retrouvât sans le sou à la veille de son embarquement. Un jour, elle se sentit poussée d'aller à la banque de Hong Kong et de Shanghai. Elle ne savait comment s'y rendre, mais une missionnaire lui proposa de l'accompagner. Pensant que Gladys allait retirer de l'argent, elle la conduisit directement au guichet des retraits. Mais Gladys, tout embarrassée, lui dit « Non, je dois rencontrer quelqu'un qui travaille ici. » Et ce fut tout. Perplexe, la missionnaire alla trouver le garçon d'ascenseur qui les amenait au premier étage, dans une grande pièce où travaillaient une 50aine d'hommes. « Voyez-vous celui que vous cherchez ? » demanda-t-on à Gladys. Elle était toujours embarrassée, ne sachant qui elle désirait voir. Tout ce qu'elle répondit fut « Le Seigneur m'a dit de venir ici voir quelqu'un. » Tout à coup, un jeune Chinois, élégamment vêtu, s'approcha d'elle avec un large sourire et en tendant la main. « Mademoiselle Ward, que faites-vous ici ? Où allez-vous » demanda-t-il. Gladys le regarda sans le reconnaître. « Je suis l'un de vos enfants, » dit-il. « Vous ne me reconnaissez pas ?» Le visage de Gladys s'illumina à l'ouïe de son nom. « Je ne t'aurais jamais reconnu, mais tu es immense maintenant. » Ils bavardèrent un moment, puis il lui demanda à nouveau « Que faites-vous à Shanghai ? Où allez-vous ? » Et quand elle le mit au courant, il ajouta « Alors, j'aimerais vous donner quelque chose pour vos frais de voyage. » Les Chinois sont très généreux en de telles occasions.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Vers la célébrité. La célébrité de Gladys Hilliard est l'une des plus étonnantes histoires à succès du XXe siècle. Quand on demanda un jour au docteur Stockley comment elle n'était pas morte pendant sa terrible maladie à la suite de son extraordinaire voyage avec les enfants, il répondit calmement « Je pense que Dieu avait encore une tâche pour elle. Il est difficile de trouver une autre explication. Son nom entra dans la catégorie des Albert Schweitzer ou Helen Keller et devint familier à des millions de personnes qui n'étaient entrées dans une église que pour leur mariage. Quand elle arriva en Angleterre en ce printemps 1949, elle était si frêle et si menue que ses parents ne la reconnurent pas. Ils étaient allés à la gare terminale de Londres pour l'accueillir à l'arrivée du train paquebot et l'avaient cherchée en vain. Soudain, le haut-parleur invita les personnes qui attendaient Madame Hilliard devait se présenter au bureau du chef de gare. Ils comprirent alors que l'étrange petite chinoise et son assortiment de bagages et de paquets étaient bien leur fille. Quant à Gladys, elle regardait, sans les reconnaître, la vieille dame aux yeux perçants et aux bijoux scintillants qui se précipitaient sur elle. « Ma mère était couverte de diamants !» raconta-t-elle plus tard en décrivant ses réactions aux vaillants efforts de maman d'égayer la mode austère de l'Angleterre d'après-guerre. Souvent troublée, elle parlait un mélange de chinois et d'anglais. Elle se plaignit avec humeur du peu de place dont disposait la petite maison de Cheddington Road. C'est avec froideur qu'elle avait serré la main du mari de Violette quand on le lui avait présenté. Il lui semblait que l'Angleterre n'était pas faite pour elle. Elle s'y sentait étrangère. Il lui fallait se présenter régulièrement au commissariat de police. Tout lui paraissait étrange et elle soupirait après sa vie familière en Chine. Pourtant, elle trouva bientôt de quoi faire. Maman, inconsciemment, était un agent publicitaire de premier ordre. Elle était une petite coureuse pourtant très respectable, ravie de confier les tâches ménagères à Violette pour répondre aux invitations de groupe de des dames. Elle était très demandée. Notre Gladys en Chine était devenue son sujet de causerie et de conversation. Au cours de ses pérégrinations, elle rencontra un journaliste bien connu, Hugh Redwood, auteur du best-seller « God in the Slums », qui se mit à écrire à son sujet. Les invitations se succédèrent dès lors qu'on apprit que la fille de Madame Hilliard était de retour. Hugh Redwood inséra un petit paragraphe dans le quotidien de Londres dont il était le rédacteur de nuit. Gladys Hilliard était rentrée après 17 ans de travail missionnaire en Chine. À cette époque, un producteur de la BBC préparait une série d'histoires authentiques. Cette émission était appelée « Les Invaincus ». Alan Burgess, c'était son nom, cherchait continuellement matière à reportage. Aussi parcourait-il les journaux pour y trouver quelques idées. Quand il sut qu'une femme avait fait un très long séjour en Chine et venait de rentrer, il en prit note. Peut-être était-ce intéressant, il irait la voir. Quand il arriva un jour à Edmonton et frappa à la porte du numéro 67 chez Dington Road, ce fut Gladys qui lui ouvrit. Elle était seule. Le jeune homme lui expliqua qu'il était de la BBC et qu'il préparait des émissions radiophoniques sur des faits authentiques. lui accorderait-elle une interview ? Elle répondit immédiatement « Non, certainement pas !» Comme il insistait, elle lui affirma que rien dans sa vie en Chine ne valait la peine d'être joué dans une pièce radiophonique. Mais elle se laissa pourtant attendrir. Ce jeune homme était charmant, et dans un sens, Gladys n'avait pas vieilli. Elle était toujours sensible au charme masculin. Ce monsieur paraissait si déçu. De plus, il faisait lourd ce jour-là. « Venez prendre une tasse de thé, dit-elle. Je vous montrerai une tea box authentique, un genre de couvre-théière. » Pendant qu'il prenait place, elle alla faire chauffer la bouilloire et sortit cette boîte thermos dans laquelle la théière resterait chaude pendant des heures. Avec tout l'esprit contradictoire de la nature humaine, Gladys, dont les récits d'expériences personnelles avaient monopolisé la conversation au cours de maintes rencontres, refusa catégoriquement l'idée de dévoiler ses histoires au grand public. Elle était déterminée à garder la conversation centrée sur le thé. « Vous avez dû faire d'étranges expériences, » avança le jeune homme. Gladys l'admit volontiers, mais continuait à douter que les gens y trouvent quelque intérêt. « Mais regardez donc comment ça marche, bien mieux qu'un couvre-théière ordinaire !» Il fallut au moins un quart d'heure à Alan Burgess pour tirer quelque chose d'elle. Après des questions prudentes, il découvrit que Gladys avait emmené une fois des enfants à travers les montagnes du nord de la Chine. Combien de temps cela a-t-il pris ?
Environ un mois.
Combien d'argent aviez-vous ?
De l'argent ? Mais je n'en avais pas.
Et combien d'enfants ?
Elle ne savait pas exactement. Environ une centaine.
Je vois, dit Burgess. Ce qu'il vit n'était pas comment Gladys y était prise pour arriver à destination. Il avait senti le reportage. Cette modeste femme à l'entrain singulier avait une extraordinaire histoire. Il lui faudrait peut-être faire plusieurs voyages à Edmonton pour l'obtenir, mais il était sûr maintenant que cela en vaudrait la peine. L'adaptation de son histoire d'environ une demi-heure, passa cet automne-là sur les antennes de la BBC. Et elle eut un immense succès. Le printemps suivant, une brochure fut éditée et vendue dans les librairies religieuses sous le titre « Gladys Aylward, une invaincue ». Mais à sa parution, Gladys était déjà connue comme une conférencière de talent. Elle savait tenir les gens en haleine. Le pasteur Roland Lamb le constata lorsqu'il invita Gladys à parler à un groupe de vieilles dames de sa paroisse. Après les présentations d'usage et la tasse de thé traditionnelle, le moment du message arriva. Gladys se leva, petite dame un peu bizarre dans sa robe chinoise. Les vieilles dames s'installèrent confortablement dans leur fauteuil, prêtes à somnoler pendant 20 minutes. C'était l'heure de la sieste.
« Et Dieu dit à Abraham, » commença Gladys. Puis elle cria soudain, « Lève-toi et marche ! Lève-toi et pars !»
Les vieilles dames sursautèrent. Les yeux agrandis par la peur, pendant l'heure qui suivit, elles restèrent là, le regard fixé sur cette dame sans se soucier du temps et sans perdre un mot de ce qui s'était passé quand Dieu avait lancé à Gladys le même appel qu'à Abraham. « Sors de ton pays !» À l'époque où je suis partie en Chine, j'étais la personne la plus incapable qui soit, mais dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, encore moins d'aller en Chine. Je n'avais jamais passé d'examen, moi. Aller en Chine ? Gladys Aylward, ai-je dit, pourquoi toi ?
tu n'as jamais passé d'examen. » Mais Dieu ne me demandait pas si je savais lire couramment. Il m'a dit, « Gladys Lloyd, laisse-moi t'ouvrir les oreilles et la bouche pour que le chinois puisse y entrer. Parce que c'est à ces gens-là que je veux que tu prouves ma gloire et que tu parles de mon salut. » Mes amis, si Dieu a jamais fait un miracle dans notre monde, c'est bien dans ma tête qu'il l'a fait. Je parle chinois, oui, vraiment. Mais ne pensez pas que j'en suis fière. Hein? Je suis dans l'humilité devant un Dieu tout-puissant qui dit « Quand j'appelle, j'équipe ». Et il le fait. Vous devez simplement dire « Me voici, fais ce que tu veux de moi ». J'ai eu des tâches terribles pendant mes premiers mois en Chine, quand Jenny Lawson décida d'ouvrir une auberge pour prêcher l'évangile aux muletiers. La vieille dame écossaise avait été, je dois l'avouer, la plus grande force qui m'a attirée en Chine. Nous avons ouvert cette auberge. Ne pensez pas que ce soit moi. Non, je n'aurais jamais touché de mulet ni si Jenny ne m'y avait forcé. Je n'aimais pas les mulets. Mais voyez-vous, lorsque l'on est coincé, il faut aller droit devant, et c'est tout. J'ai essayé de réfléchir. Que se passerait-il lorsque je me tenais devant la porte, moite de transpiration, ronchonnant dans mon fort intérieur en attendant ces mulets que je devais tirer à l'intérieur de la cour? Enfin, supposez que je ne les ai pas attrapés. Oh, mais quelle triste pensée! Au moins un homme ne serait pas dans l'éternité avec le Seigneur de gloire. Elle avait beaucoup de choses à raconter sur les enfants. Par exemple, ce qu'elle avait recueilli à Yangchen. Un jour, l'un d'eux flânait dans la rue et rencontra un petit mendiant avec une tasse et son bâton pour se protéger des chiens. Il lui demanda « Qu'as-tu dans ta tasse ?»«
Rien. »«
De l'argent ?»«
Non. »«
Tu n'as rien eu à manger aujourd'hui ?»«
Non. »«
Moi, si. J'ai mangé plein de porridge et du pain ce matin. »«
Plein de nouilles à midi. » »«
Et où as-tu dormi ?»«
Sous un mur en dehors de la ville. »
C'est là que je dormais avant. Puis, il ajouta avec une satisfaction certaine, « Je n'y dors plus maintenant. Tu vois ce portail là-bas ? »
« Oui. »
« C'est là où j'habite. Je mange tous les jours. Tu peux habiter avec nous si tu veux. » Les vieilles dames riaient une minute et pleuraient la suivante quand elles se séparèrent. 50 minutes plus tard qu'à l'ordinaire, elles se dirent l'une à l'autre qu'elles auraient pu écouter Mademoiselle Howard pendant des heures. Une fois de plus, Gladys va s'occuper d'un enfant et être pour lui sa mère. Il s'agit de Gordon, qui a été sans doute le plus aimé de ses fils adoptifs. N'ayant pu quitter la Chine pendant 17 ans, des missionnaires de ses amis suggérèrent à Gladys qu'il était temps pour elle d'aller voir sa famille en Angleterre. Et à cette occasion, la chose va se concrétiser. Et ce sera l'occasion d'une émission la concernant sur la BBC, suivie d'une autre et d'un livre dans une librairie. Période que Gladys va particulièrement apprécié. Je vous propose de penser, comme d'habitude, à écouter Radio Alliance Plus. Ceci vous permettra de réécouter sur 103.2 FM et d'A+ l'émission Je lis pour vous. Les jeudis, les mardis et mercredis à 21h, rediffusion à 6h, et les jeudis et mardis, où les podcasts, ils sont aussi à votre disposition.
Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à les écouter. N'oubliez pas, je lis pour vous. À bientôt, chers auditeurs.